Alors nous sommes toujours dans l'évangile de Marc, et Sylvain vient de citer le passage qui a fait l'objet de prédications précédentes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plan de formation. Qui a suivi ou qui a, pour lui-même, est titulaire d'un plan de formation au plan professionnel? Levez la main, c'est juste un sondage. Je pensais que c'était obligatoire. Bon, il va falloir s'en occuper sérieusement. Eh bien, voilà, mais Jésus, lui, a eu le souci de former ses disciples. Et nous allons voir aujourd'hui un passage que je vous avais annoncé il y a 3 semaines, hein, c'est-à-dire Marc 6, versets 45 à 56, un passage interpellant, comme vous le verrez bientôt. Alors, je vous propose de le lire. Marc 6, versets 45 à 56. Aussitôt après, sous-entendu le après, c'est après l'événement de la multiplication des pains dont Sylvain vient de parler. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Verset 53, après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alors notre texte de ce jour, comme je vous l'avais annoncé, c'est un texte qui soulève quelques difficultés de compréhension, en tout cas pour moi. Que Jésus s'isole sur la montagne pour prier, verset 46, cela ne pose pas de problème. C'est légitime, il aspirait à ce moment de communion avec son Père. Légitime aussi pour Jésus que de vouloir aller vers ses disciples en pleine nuit, verset 48. Compréhensible pour nous aujourd'hui de constater que le simple fait pour Jésus de monter dans la barque et calmer le vent. Compréhensible aussi que Jésus soit littéralement assailli par de très nombreux malades qui aspiraient à être guéris par un simple contact physique avec le bord de son vêtement. Imaginez si cela arrivait aujourd'hui. Jésus passe parmi nous et que tous ceux qui ont un petit problème de santé seraient tentés de venir toucher son vêtement pour être guéris. Mais plusieurs autres points de ce texte peuvent nous surprendre et nous poussent à approfondir notre réflexion. C'est bizarre, c'est très bizarre que Jésus ait obligé ses disciples à monter dans une barque. Premier point. Bizarre aussi que Jésus, qui le soir venu voit la barque des disciples en difficulté depuis quelques heures qu'ils n'interviennent pas tout de suite, pas tout à fait cessante. Il attend la fin de la nuit. Bizarre aussi que Jésus, alors qu'il marchait sur l'eau, ait voulu dépasser les disciples. Verset 48. Un peu surprenant. En passant à côté d'eux, les dépasser et pas s'arrêter. Bizarre. Bizarre que le texte affirme que les disciples n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre, alors qu'ils ont eux-mêmes distribué le pain et qu'il y avait des restes, alors qu'au départ il n'y avait que 5 pains. Bon, ils ont vu le miracle de la multiplication des pains, mais Jésus, enfin l'évangéliste, nous rapporte qu'ils n'ont pas compris le sens de cette multiplication. On n'imagine pas que ces récits des évangiles, même parfois difficiles à comprendre, n'aient pas quelque chose à nous apprendre à nous aujourd'hui. Et au plan pratique, pour nous, on peut dire que dans ce récit, nous discernons quelques lignes d'un plan de formation que Jésus a mis en œuvre pour ses disciples. Et du coup, on peut aussi mieux comprendre notre propre plan de formation de chrétien. Première chose, c'est que Jésus nous forme par des expériences positives, excellentes, qui nous permettent de commencer à le connaître. C'est la découverte de la foi, la découverte du salut avec le pardon de nos péchés. C'est le début de la découverte de certains traits de la puissance de Dieu, avec des réconciliations, avec des délivrances. C'est en grande partie le cheminement que les disciples ont effectué jusqu'à l'épisode d'aujourd'hui. Et c'est aussi généralement le témoignage que nous entendons par les candidats au baptême, quand nous avons des baptêmes ici, hein, lorsqu'ils exposent la manière dont Dieu les a guidés jusqu'à ce temps d'engagement avec Jésus-Christ à sa suite. Donc ça, c'est l'enseignement de Jésus par des expériences positives. Mais Jésus nous fait aussi passer par des périodes d'épreuves nécessaires à notre croissance spirituelle. Après un temps de provision et de grandes bénédictions, Jésus force ses disciples à affronter la tempête. Et nous avons un premier événement surprenant, c'est qu'il commence par obliger ses disciples à monter dans la barque. Ce n'est pas très démocratique, hein. L'une des raisons possibles de cet ordre surprenant apparaît dans une remarque de l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 6, verset 15. Et je vais vous lire ce verset de l'évangile de Jean, qui est au même moment, après ce miracle de la multiplication des pains. « Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau tout seul dans la montagne. » Jean nous donne une explication sur la nécessité d'éloigner les disciples. C'est pas que Jésus en ait eu marre de les voir, mais Jésus ne voulait pas qu'ils assistent à une éventuelle démarche du peuple qui voulait absolument faire Jésus roi. C'était pas le moment. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Jésus. Et donc, pour couper court à cette possibilité que les disciples puissent voir le couronnement, enfin l'appel de Jésus comme roi par tout ce peuple qui était très nombreux, eh bien, il préfère éloigner ses disciples. Voilà, j'ai mis du temps à comprendre cette obligation qu'ont eu les disciples de s'éloigner, mais il y avait une raison positive que les disciples n'ont évidemment pas intégré tout de suite. Mais voilà, donc quelle sagesse du Seigneur qui sait discerner les temps et les moments. Donc les disciples, eux, n'ont pas compris, hein, certainement pas encore, mais ils ont sont montés dans la barque sans Jésus. C'est comme si Jésus avait aussi l'objectif d'apprendre à ses disciples à se débrouiller seul, pour la vie courante, sans que lui soit obligé d'être 24 heures sur 24 avec eux. Et comme pour insister sur ce point du plan de formation, il y a un deuxième élément surprenant. Pourquoi Jésus tarde à intervenir pour secourir les disciples qui bataillent contre le vent ? C'est pas sympathique, hein, de la part de Jésus que de laisser les disciples batailler avec les vagues, le vent, etc., alors que lui, bah, tranquillement, il va prier. Eh bien, en attendant la quatrième veille de la nuit, nous dit le texte, verset 48, hein, c'est-à-dire la fin de la nuit, hein, eh bien, 3 heures du matin, ou à peu près, eh bien, on dirait que Jésus veut encore leur faire endurer cette épreuve. Sous-entendu, pour les former. Mais il y a le troisième élément surprenant que j'ai cité au début. Hein, bizarre que Jésus, alors qu'il marchait sur l'eau, ait voulu les dépasser, en passant à côté d'eux, mais sans s'arrêter. Je ne sais pas si... Moi, ça m'a choqué. Enfin, ça m'a... Je n'ai pas compris. Hein, comme pour aller plus loin. Hein, comme pour, finalement, ignorer ses disciples. C'est un peu comme si Jésus n'avait pas la même notion du temps et du danger que ses disciples, et du même coup que nous. Un peu comme si Jésus voulait nous enseigner une certaine relativité du temps et des épreuves, comme pour éprouver notre foi. Et pour compléter, il y a encore un quatrième élément surprenant, donc les disciples découvrent tous ensemble, au travers de cette épreuve, une autre facette de la toute-puissance de Jésus. Il a le pouvoir de marcher sur l'eau, de braver les lois de la physique. Alors, je pense que Archimède, vous savez, qui est Archimède, le principe d'Archimède. Bon, je vous expliquerai à la sortie, hein, c'est de la physique. Mais Archimède, il a dû se retourner dans sa tombe, lui qui a été enterré 200 ans avant cet épisode. Je vais quand même vous dire de quoi il s'agit. Hein. Le principe d'Archimède, c'est tout corps plongé dans un liquide, reçoit de la part de ce liquide une force de bas en haut, contraire à l'apesanteur, égale au poids du volume d'eau déplacé. Voilà, c'est-à-dire que s'il n'y avait que les pieds de Jésus qui étaient sur l'eau, il n'y avait que les pieds de Jésus. Et les pieds de Jésus, allez, ils faisaient peut-être 2 kilos d'eau. Donc ce n'était pas du tout une force suffisante pour maintenir Jésus au-dessus de l'eau. Donc c'était vraiment un miracle qui contredit les lois de la physique élémentaire. Jésus défie les lois de la physique en marchant sur l'eau, tout comme il a défié les lois de la vie courante en multipliant les pains. Les disciples n'avaient pas compris le miracle de la multiplication des pains, comme ils n'avaient pas imaginé jusque-là que Jésus pourrait marcher sur l'eau. Il a fallu cette expérience vécue tous ensemble de la marche de Jésus sur l'eau pour commencer à ouvrir les yeux et leur compréhension. Et que signifie en fait ce miracle de la multiplication des pains ? Il vient juste de se passer avant. Jésus apporte le salut dans sa plénitude, avec une nourriture équilibrée, complète, abondante, puisqu'il y a même des restes, et ceci, il le fait pour le monde entier. En l'occurrence, le jour du miracle, il y avait 5000 hommes. C'était loin d'être négligeable. Les disciples avaient certes assisté à ce miracle, mais ils n'en avaient pas mesuré toute la signification et la portée. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Comment intégrons-nous les miracles dont nous sommes témoins ? et aussi les miracles relatés dans la parole de Dieu. Miracles dans nos vies, mais aussi miracles dans le monde entier, aux antipodes. Banalisation, banalisation à l'extrême, est-ce ça notre réaction? Ou alors admiration et reconnaissance? Si nous croyons que Jésus est Seigneur et que tout pouvoir lui a été donné, nos peurs et nos préoccupations ont-elles encore un sens? C'est facile à dire quand on n'est pas au milieu de l'épreuve, hein, qu'on est bien dans sa maison, bien au chaud. Mais dans l'épreuve, est-ce que nous croyons que Jésus a tout pouvoir? Donc les disciples commencent à découvrir, dans le cadre de leur formation, que Jésus peut intervenir à distance, sans être forcément présent avec eux. Jésus leur avait déjà appris cela quand il les avait envoyés deux par deux. Les disciples avaient pu, sans la présence de Jésus, guérir des malades. Mais là, ça continue. Jésus enseigne ses disciples. Il peut intervenir sans sa présence physique. Alors, troisièmement, c'est une grande leçon pour les disciples, mais aussi pour nous dans ce passage, c'est que Jésus est patient et compatissant. C'est ce qu'on voit dans le texte qu'on a lu. Hein. Jésus peut adapter, il peut voir même changer ses plans. Jésus voulait dépasser la barque, c'est son plan. Il avait son idée, je ne sais pas quelle était exactement son idée, c'est pas, le texte ne le dit pas, mais il a changé son plan. Je vais vous lire. « Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus rassure. Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ce texte nous fait aussi penser le fait de dépasser la souffrance de ses disciples qui étaient dans la barque, dans la tempête, là, le fait de pouvoir passer outre en quelque sorte. On a un autre exemple dans l'évangile de Luc, cette fois-ci, que je vais vous lire ces deux versets. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus semblait vouloir continuer sa route. Il voulait dépasser. Hein. Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste avec nous, tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors, il entra dans la maison pour rester avec eux. Jésus peut changer ses plans. Il voulait dépasser ses disciples, mais à cause de leur effroi, ils ont été terrorisés, il va changer ses plans et monter à bord comme pour entrer dans la maison du passage de Luc. Avons-nous déjà songé que Dieu, dans sa merveilleuse patience, s'adapte à nos craintes et change parfois ses plans par amour pour nous quand nous sommes dans une pleine tempête? Il ordonne aux éléments naturels de se calmer et ils lui obéissent au doigt et à l'œil. C'est une nouvelle preuve pour Jésus pour accréditer le fait qu'il est Dieu fait homme. Les disciples avaient visiblement besoin d'être éprouvés car leur cœur dur ne leur permettait pas encore de reconnaître Jésus à sa juste valeur. Mais lorsque nous traversons une épreuve, Dieu intervient et installe finalement sa paix. Quelles sont nos tempêtes aujourd'hui? Chacun peut répondre pour lui-même. On peut voir aussi des tempêtes mondiales, mais restons déjà à notre niveau. Quels sont nos troubles et nos questionnements? Et comment est notre cœur face à tout cela? Eh bien, ce texte nous montre que l'on peut faire confiance en la puissance et en l'amour de Dieu, Ce n'est pas toujours facile. C'est un des points sensibles de notre plan de formation. Ligne, formation, point sensible. Donc, souvenons-nous que Jésus est patient et compatissant. Ce n'est pas un maître dur et impitoyable. Et la fin de notre texte, les versets 53 à 56, que je ne vais pas relire, eh bien, nous montre la manifestation magistrale de la puissance de Jésus. C'est une manifestation absolument magistrale, avec de très nombreuses guérisons par un simple contact avec Jésus, certes un contact volontaire. Cette scène de Génézareth, là où se trouve Jésus, ça marque le point culminant de Jésus en Galilée. Apparemment, ces personnes nombreuses qui ont été guéries ne désiraient rien d'autre que la guérison physique. Et comme ici, il n'est plus fait mention d'enseignement de la part de Jésus, dans ce passage, il ne fait que de guérir, il ne prêche pas la parole, spécialement, en tout cas le texte ne le rapporte pas, mais il semble que Jésus se soit consacré sans réserve à ces malades. Et on ne peut que s'incliner devant à la fois la puissance et la compassion de Jésus. Et nous sommes invités, chacun, aujourd'hui, à venir à lui ou à revenir à lui, quel que soit notre contexte. Et nous sommes invités à lui faire confiance. Sachant que nous voyons, au travers de ce texte, que Jésus nous accompagne dans l'épreuve, qu'il nous manifeste sa compassion et qu'il a même le pouvoir de nous guérir selon sa volonté. Je vous invite à la prière. Et nous chanterons ensuite un cantique. Les musiciens pourront venir accompagner « Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie ». Oui Seigneur, on veut te rendre grâce pour les manifestations de ta puissance, mais aussi de ton amour dans ce passage que nous avons lu. Seigneur, tu veux aussi nous former, que tu nous donnes de discerner les étapes de cette formation, qui ne correspondent pas forcément toujours à ce que nous aimerions ou nous penserions. Seigneur, que tu sois au centre de nos vies, que tu sois au centre de nos préoccupations, et que tu nous donnes en particulier dans l'épreuve, quand nous avons des décisions sans prendre, et nous en avons tous un jour ou l'autre, que tu sois vraiment avec nous, et que nous puissions vraiment te faire pleinement confiance. Tu veux nous rassurer, Seigneur, rassure-nous et conduis-nous. Au nom de Jésus. Amen.